Podcast de la série Les réseaux pédocriminels n'existent pas. Round 20, le réseau de Mink. Le cas Joris de Mink. Pendant 10 ans, de 2002 à novembre 2012, de Mink a été secrétaire général du ministère de la Justice des Pays-Bas. Pourtant, des accusations graves concernant des actes pédocriminels ont été faites contre lui à plusieurs reprises. Quand il a été nommé en 2002, une quarantaine d'éléments et d'accusations portaient déjà contre de Mink. En 2003, deux magazines ont évoqué ces faits, mais ils ont été condamnés en justice pour rectifier leurs propos. Impunité. En octobre de la même année, un jeune prostitué a porté plainte contre de Mink, mais il a été condamné en juillet 2004 à 2 mois de sursis pour avoir fait de fausses déclarations. De fait, il a changé de version lors de son interrogatoire par la police. Il faut dire que ce témoin impliquait de Mink dans le tournage d'un snuff movie pédoporno en République tchèque, au cours duquel un enfant est mort. Ainsi, de Mink a passé 30 ans au ministère de la Justice, où ce spécialiste des affaires concernant les mineurs a pu étouffer tranquillement tous les scandales naissants. On comprend mieux pourquoi l'association Martinch, qui revendique le pouvoir de violer des mineurs, a été tolérée aux Pays-Bas jusqu'en juin 2012. Donc pour la parenthèse, Martinch, c'était une association qui avait pignon sur rue aux Pays-Bas, et qui organisait même ce qu'on appelait l'IPCE, c'était l'International, je sais plus, for Child Emancipation, enfin bref, c'était le lobby en gros européen et international qui rassemblait un peu toutes les associations nationales de lobby pédophiles dans le monde et qui faisait une lettre, une newsletter qu'ils envoyaient, donc à l'époque c'était dans les années 80-90, par courrier, et où on pouvait être abonné et qui mettait en réseau en fait voilà, tous les lobbies pédophiles de chaque pays. On peut notamment citer le Centre du Christ Libérateur en France avec le pasteur Doucet qui en faisait partie. On peut également citer le fait que cette IPCE, pendant assez longtemps, jusqu'aux années 90, fin des années 90, arrivait à participer à l'ILGA, l'International Lesbian and Gay Association, donc le grand rassemblement organisé par l'ILGA, qui était le lobby gay, ce qu'on appellerait aujourd'hui LGBT. Et arrivaient à faire en sorte que parfois il y avait donc des ateliers sur la pédo, ils arrivaient à se mettre un petit peu là-dedans, ils surfaient sur la vague des années 70, et finalement, très tardivement, les choses se sont quand même décantées au niveau des LGBT, ils ont un petit peu fait le ménage, à notre goût, il reste encore beaucoup de choses à faire. Néanmoins, on voit un petit peu comment ça pouvait se passer à cette époque-là, et comment les pédophiles finalement se cachait derrière le paravent gay, comme on a pu le voir dans d'autres podcasts. Donc voilà, je ferme la parenthèse sur l'association Martinj, donc M-A-R-T-I-J-N. On a toutes les archives de ces newsletters, on n'a pas encore fait d'article dessus, mais ça viendra un jour si on a le courage de se taper tout ça. Voilà, je reprends. Deux victimes, aujourd'hui adultes, ont affirmé que de Mink les avait violées lors d'un voyage en Turquie à la fin des années 90, quand elles avaient 12 et 14 ans. L'une des deux victimes a même connu des menaces de mort, peu après avoir accusé la super élite hollandaise, comme l'a dit le jeune homme. À 14 ans, il avait quitté sa famille en Turquie et avait vite été forcé de travailler dans un bordel d'Amsterdam où, dit-on, il a rencontré de Mink. Il l'a revu ensuite quand de Mink lui avait demandé de venir chez lui à La Hague. C'est là que de Mink l'a violé. Apparemment, une troisième victime en Turquie s'est faite connaître auprès des autorités américaines. Le 4 octobre 2012, Chris Smith, président de la commission Helsinki, autrement appelée Commission sur la on Security and Cooperation in Europe, donc Commission sur la sécurité et la coopération en Europe, un machin US, a témoigné que de Mink a été accusé d'actes pédophiles sur des enfants de 11 à 15 ans. Cela lors d'une réunion sur les trafics d'enfants. Il a dit que les autorités hollandaises avaient étrangement négligé d'interroger trois témoins clés dans ce dossier. Un autre député, membre du comité des affaires étrangères, a ajouté que de Mink avait pesé de tout son poids pour faire cesser les enquêtes sur le réseau pédophile local et sur sa manie du tourisme pédophile. Il n'aurait pas hésité à intimider des journalistes et des témoins. Parmi les personnes qu'il eût été judicieux d'entendre, le policier turc Mehmet Korkmaz, qui a expliqué que dans les années 90, il enlevait des garçons pour que de Mink les viole. Deux victimes ont confirmé avoir été recrutées par ce flic et les trois sont d'accord pour témoigner. Un autre de ses témoins est Nekdet Menzir, ancien chef de la police d'Istanbul, a confirmé la présence de de Mink en Turquie dans les années 90, puisque ses hommes étaient chargés de sa protection. Ce que de Mink nie fermement, bien sûr. Et le troisième témoin important, qui n'a jamais été interrogé par les enquêteurs, c'est Hüseyin Celebi, ancien chef des services secrets. En 2006, il a rédigé un rapport sur les voyages pédophiles de Deming en Turquie dans les années 90 et au début des années 2000. Par exemple, en 95, Deming était dans la ville de Bodrum et les flics ont dû intervenir dans une partouze à laquelle il était présent où des enfants étaient violés parce qu'un coup de feu avait été tiré. Ce rapport mentionne aussi des faits similaires commis par le même Deming en Roumanie et en République tchèque. On aura aussi pu interroger Hüseyin Beybazin, un homme d'affaires, trafiquant de drogue et politicien kurde, condamné à perpétuité pour meurtre, kidnapping et trafic de drogue aux Pays-Bas. Il passe pour le entre guillemets Pablo Escobar européen, qui a accusé Deming en 2007 d'avoir conspiré avec les autorités turques pour le faire plonger. Il explique que les services turcs faisaient pression sur les Pays-Bas parce qu'ils avaient des preuves que Deming violait de jeunes enfants en Turquie dans les années 90. À ce propos, la technique est bien connue, puisque les Anglais ont carrément créé des bordels dans les orphelinats pour piéger les fonctionnaires et les politiciens étrangers. L'avocat de Beybazin détient plusieurs enregistrements vidéo et un rapport de la police turque au sujet des activités pédocriminelles de Deming. Alors évidemment, on retrouve également ce genre de système avec le réseau Epstein, qui est sorti un petit peu plus tard. Je vous renvoie au podcast consacré à cette affaire. Les connexions. Enfin, Deming est aussi apparu dans l'enquête sur la disparition d'un jeune Allemand, Manuel Schadwald, qu'on a retrouvé dans les bordels de Rotterdam. D'après les témoins, Deming était l'un des pontes de ce réseau qui importait des enfants de Pologne. Pour cela, Deming n'a eu que 6 mois de sursis, 6 mois de prison avec sursis et 240 heures d'intérêt général. Cette affaire n'est autre que celle qui a été la base de la découverte du réseau Zandvoort dans les années 90 par l'association belge Morcoven. Je vous renvoie à deux autres donc, podcasts, celui sur le réseau Zandvoort et celui sur le réseau qu'on a appelé Amsterdam, où on parle également donc, de ce réseau de bordel de prostitution de mineurs à Amsterdam et Rotterdam. Donc, pour revenir à Zandvoort, des dizaines de CD-ROM contenaient des images pédoporno ont été découverts, des enfants disparus ont été reconnus par des parents à travers toute l'Europe, mais presque personne n'a été arrêté, et surtout pas en France, à part celui qui avait révélé l'affaire, malgré qu'on était là face à un réseau international de trafic d'enfants. Toutefois, on peut se demander pourquoi les États-Unis se mêlent du réseau pédophile hollandais, car ils ont pas mal de travail à faire chez eux. De fait, via l'ambassade américaine de La Hague, le département d'État US recherche des témoins et des victimes potentielles. L'ambassade US explique, je cite, Deming a été l'un des membres les plus influents durant ces 30 dernières années, de par ses postes consécutifs au ministère de la Justice, d'abord en tant que directeur général de l'administration, puis comme directeur général des affaires internationales et étrangères, et depuis 2002, en tant que plus haut fonctionnaire du ministère comme secrétaire général. Fin de citation. Et il parle carrément d'un, je cite, scandale de trafic d'enfants international dans lequel est impliqué Deming, qui dure depuis les années 90. Pour autant, la justice hollandaise a estimé qu'il n'y avait pas matière à investiguer davantage. On a même vu que ce sont les victimes qui sont soit détruites, mais jamais le chef pédo en chef. Pas de chance, les États-Unis, eux, trouvent ces allégations crédibles. Ils ont demandé à la Turquie de leur faire parvenir des éléments de preuve, et on sait que Deming a été éjecté de Turquie, certainement pas sans raison. Les autorités hollandaises étant décidées à ne rien faire, des citoyens ont lancé le site arrestdeming.com afin de faire cesser les activités de ce pédocriminel de haut rang, qui n'a d'ailleurs pas agi seul. Et beaucoup de têtes risquent de tomber parmi ses complices et parmi ceux qui l'ont aidé à dissimuler la vérité durant toutes ces années. L'association Rebecca Project for Human Rights, donc le projet Rebecca pour les droits de l'homme, demande aussi une investigation sur l'étouffement de l'affaire. Mais aux Pays-Bas, comme en France, en Belgique, en Angleterre, en Espagne et partout ailleurs, les autorités protègent les réseaux pédophiles. Ainsi, dès la fin des années 70, la Cour de justice de La Hague avait employé deux juges pédophiles, Stolk et Rueb. Pour un peu, l'affaire aurait été rendue publique, mais à force de pression et d'intimidation, et aussi après plusieurs meurtres, et la victime a été condamnée à vie en 1982, l'année où Deming est arrivé au ministère de la Justice. En 1998, l'opération Rolodex a amené les enquêteurs dans les bordels d'Amsterdam, où ils se préparaient à arrêter quelques personnages influents, parmi lesquels des politiciens et des hauts fonctionnaires. Deming figurait sur la liste. Mais dès qu'il a été cité, l'investigation a pris fin. Certains affirment que c'est Deming qui a fait stopper l'enquête. Et déjà à l'époque, les témoins clés ont déclaré qu'on avait tenté de le tuer. Dans cette affaire aussi, il y a eu plusieurs décès très opportuns. On a parlé du chauffeur de Deming et de la pédiatre Le Bruyère, mais aussi l'avocat d'un des témoins, le jeune qui a dansé le Snuff Movie et aussi mort en 2008 dans un accident de moto. Gerrit Ulrich, témoin clé du dossier Zandvoort, du nom de la ville hollandaise où vivait Ulrich et où ont été trouvées les images pédos, a été assassiné par son ex-copain. Alors ça, c'est dans le dossier Zandvoort. Donc Zandvoort, faut savoir que c'est la station balnéaire de Amsterdam, en fait. Amsterdam, il y a des canaux, mais c'est pas tout à fait au bord de la mer. Et si vous allez droit vers l'ouest, à même pas une demi-heure de route, vous avez des plages. Et donc c'est voilà, c'est la station balnéaire où tous les gens qui ont de l'argent à Amsterdam vont le week-end. L'un de ceux qui ont découvert De Mink est Hirsch Balin, ex-ministère de la Justice et de l'Intérieur, qui a toujours déclaré que les accusations contre son ami étaient infondées ou pas crédibles. Balin est fortement soupçonné d'avoir couvert le trafic de drogue à grande échelle dans le pays via l'IRT, un service de police interrégional. En 1996, un rapport parlementaire a montré que de grandes quantités de drogue avaient été introduites et vendues dans le pays avec l'aide du gouvernement. Peu après la publication du rapport, le président de la commission, Maarten van Tra, a été tué dans un accident de voiture. Auparavant, le conseiller juridique de la reine Béatrix, Fritz Solomonson, a été écarté suite à une affaire de pédophilie. Il était aussi l'amant de Gerrit Ulrich, trafiquant d'enfants, qui apparaît dans l'affaire Zandvoort, et appréciait beaucoup les petits garçons marocains d'après ses voisins. Le prince Klaus, mari de la reine Béatrix, faisait la tournée des bars gays de New York avec Solomonson en 82. Bien sûr, les services US détiennent quelques photos de ses escapades. Pendant le procès de Solomonson, un couple a expliqué avoir vu Klaus dans un bordel alors qu'il était avec des garçons de 12-13 ans. Solomonson a aussi été fortement soupçonné de blanchir de l'argent de la drogue via sa société Text Light. Gerd van Roon est un ami de Demink. Prof de droit à Amsterdam, il se trouve que des gamins débarquant à la gare centrale depuis les pays de l'Est se rendaient directement dans son appartement où des partous avaient lieu d'après les rapports de la police. Van Roon était en contact avec certains membres de la bande de Zandvoort, comme Karel Maasdam ou encore Lothar Glandoff, patron de moult bordels avec des mineurs à Rotterdam. Il aurait vendu des centaines d'enfants et d'ados depuis l'Angleterre et l'Europe de l'Est, et De Mink était client de ces bordels. Van Roon a aussi été impliqué dans les dossiers Rolodex. On pourrait aussi parler du père de la reine Béatrix, le prince Bernhard des Pays-Bas, créateur du groupe de Bilderberg avec David Rockefeller et ancien SS qui hébergeait sur son yacht Jumbo 6 des orgies pédophiles auxquelles le témoin X1 de l'affaire du Trou a dit avoir été présent. Donc le groupe de Bilderberg, je vous renvoie à ce que ça peut être sur Internet. Donc c'est effectivement un groupe, un think tank soi-disant de gens, quand on voit la liste, c'est quand même des gens les plus puissants du monde, que ce soit au niveau politique, entreprises multinationales, rédacteurs en chef de journaux, etc. Et qui discutent ensemble et dont les discussions sont secrètes, mais où on se rend compte quand on regarde un petit peu les gens qui sont invités, que quelques années plus tard, eh bien, ils sont promus et accèdent à des postes très importants. Ça a par exemple été le cas de Macron qui était... secrétaire général de l'Élysée à l'époque, bon voilà, c'est un poste important, mais c'est pas non plus, personne ne le connaissait, et puis quelques années plus tard, comme par magie, il devient président de la République. Continuons. Comment la pédophilie des élites sert à faire chanter des États souverains? Revenons sur notre ami Joris de Mink, ce pédophile sadique qui fut durant des années le plus haut fonctionnaire du ministère de la Justice des Pays-Bas. Il s'est fait coincer avec des mineurs dès 1995 en Turquie. Mais au lieu de le poursuivre en justice, la Turquie a cherché à monnayer le dossier contre une faveur, l'emprisonnement à vie d'un opposant kurde. C'est l'affaire d'un haut fonctionnaire vérolé, d'un pédophile couvert par son administration et qui entraîne tout son pays dans des affaires de corruption sans fin. Tous les establishments hollandais, de même qu'une bonne partie des citoyens, savent parfaitement que De Mink commandait des gamins des rues en Turquie pour les violer. Et à qui demandait-il de lui ramener des enfants? À des flics véreux. Du coup, la Turquie avait des cartes à jouer pour faire avancer ses petites affaires. Car il semble bien qu'en échange de leur silence, les autorités turques ont réclamé quelques faveurs, comme par exemple la mise au cachot d'un opposant kurde, dont on en parlait tout à l'heure, Hüseyin Baybazin. L'accord aurait été négocié directement entre le Premier ministre turc et le ministre de la Justice hollandaise, Winnie Sordrager. Baybazin, accusé d'être un gros mafieux, a été envoyé en tôle au milieu des années 90 pour un très gros trafic de drogue, ainsi que pour avoir commandité un meurtre et est dit être innocent. Il a même fait une grève de la faim et a dénoncé l'accord entre les deux gouvernements. De Mink s'est arrangé pour que Baybazin soit mis au secret, mais sans aucun contact avec ses proches. Et surtout, il a ramassé une peine de prison à vie en 2002. Quant aux enfants victimes, qui n'espèrent pas justice, tant cela arrange tout le monde que l'affaire reste officieuse. De fait, après la condamnation finale de Baybazin en 2002, on a appris que le gouvernement turc avait fait pression sur les Pays-Bas pour obtenir une grosse condamnation de Baybazin, devenu un opposant politique redoutable qu'il convenait d'éliminer et de neutraliser. Et puis aucun des deux types à qui il aurait commandité le meurtre n'a été condamné. Ces pressions consistaient clairement à menacer de dénoncer les penchants pédophiles d'un haut fonctionnaire du ministère de la Justice. En effet, à l'époque où se négociait l'affaire Baybezin, les services turcs enquêtaient de leur côté auprès des victimes de Deming et des intermédiaires qui les lui avaient amenés. L'enquête en question était menée par Necdet Menzir, donc ex-chef de la police de Istanbul et ex-ministre des Transports. Les pressions turques visaient ensuite à faire extrader Baybezin. Le gouvernement hollandais était tout à fait d'accord, mais la Cour suprême avait refusé en raison des risques pour la vie de Baybezin. Qu'à cela ne tienne, le gouvernement a quand même tenté de passer outre. Mais l'affaire remonterait à loin, puisque la coopération entre guillemets entre les autorités turques et hollandaises aurait commencé dès 1994, 2 ans après que Baybezin ait fui son pays. C'est aussi à cette époque que remontent les premiers faits de pédophilie commis en Turquie par Deming, qui d'ailleurs continue à nier avoir jamais mis les pieds en Turquie, bien que moult éléments tels que ses agendas prouvent le contraire. La Turquie a quand même été gentille, elle a dit qu'il n'y avait pas de trace d'un passage de Deming à la frontière turque dans les années 90. Pas de bol, en avril 2013, l'original du rapport des douanes turques est sorti et on a appris que Deming était bien entré dans le pays le 20 juillet 1996. Remarquez, c'est plutôt normal, en tant que directeur général des affaires internationales au ministère de la Justice, il faisait partie du comité chargé de la question du conflit entre les Kurdes et la Turquie. Quoi qu'il en soit, les documents des entrées et venues officielles d'étrangers de 1995 à 2000, je vous le donne en 1000, ont disparu. Du moins officiellement, car plusieurs témoins disent avoir vu des traces du passage de Deming sur des ordinateurs des services turcs. En outre, on a fini par apprendre que Deming utilisait 3 pseudonymes différents pour se rendre en Turquie. Il y est allé en tant que touriste en 1995, puis y est retourné en juin 1996 pour une conférence, puis il est allé en 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003. Entre parenthèses, Deming semble avoir pas mal voyagé, puisqu'on le retrouve dans divers bordels d'Europe et d'ailleurs. Il est notamment passé par le Pinocchio Bar à Prague, au lieu de prostitution des jeunes dans les années 90, où on trouve également pas mal de pédos anglais expatriés. Notamment, on parle de Warwick Spinks. Quand l'une des victimes de Deming a cherché à porter plainte en Turquie, c'est carrément le chef des renseignements Emin Arslan qui l'a menacé. Le même Arslan qui a aussi violé cette victime et qui a surtout travaillé avec Deming pour monter le coup contre Baybezin. Des films et des photos de partouzes pédophiles avec Deming dessus ont été saisis par la police turque. Ces partouzes se tenaient dans les bâtiments d'écoles privées ou sur des yachts à Marmaris. Des VIP et des enseignants y participaient. Des milliers de contenus pédoporno ont été saisis. Le tout a été donné à la justice, qui a seulement condamné un des profs et qui s'est empressé d'émigrer en Allemagne. Puis la procédure a été stoppée. Quant au matériel pédoporno, tourné lors de ces partouzes, il aurait reçu le tampon diplomatique. En 2003, un reportage diffuse le témoignage d'une victime de Deming qui affirme qu'il était présent lors du tournage d'un snuff movie à Prague, en République tchèque. Au cours du tournage de ce film pédo, un enfant est mort après avoir été sodomisé avec un godemiché. Bien sûr, il n'y a eu aucune investigation à ce sujet. L'enquête Rolodex. En 1998, c'est l'affaire Rolodex, une enquête sur un réseau de prostitution de mineurs dans les bordels d'Amsterdam, dans laquelle sont mêlées de nombreuses personnalités dont aucune n'est tombée. Apparemment, les flics s'apprêtaient à mener des arrestations quand l'enquête a été stoppée à la dernière minute. Vraiment, c'est comme dans les films, hein, le petit coup de fil qui va bien. Bref, la réalité dépasse toujours la fiction. Une victime hollandaise de Deming raconte comment, alors en fugue à 14 ans, il a pris le train pour Amsterdam et s'est retrouvé dans les bordels pédophiles, à tourner de la pédopornographie et à traîner dans les orgies. Récupéré à la gare centrale par un type qui lui propose un abri pour la nuit, il se réveille le lendemain complètement nu avec des photos compromettantes de lui tout autour. Le type l'a ensuite menacé de les envoyer à ses parents et lui a demandé de se prostituer. Il est arrivé le jour même dans un des bordels pédos d'Amsterdam, où des enfants parfois encore plus jeunes que lui, venant de toute l'Europe, étaient déjà prostitués. Évidemment, les enfants étaient drogués et alcoolisés pour mieux supporter. Parfois, ils étaient aussi loués pour des parties privées. Ce témoin raconte aussi qu'il a croisé à Amsterdam des gens qui avaient participé au tournage de Snuff Movie, avec des meurtres donc, et que lui-même avait tourné des films pédoporno réalisés par le patron du bordel. On lui a proposé de participer à un snuff contre beaucoup d'argent, mais il a refusé. Cette victime dit avoir travaillé entre guillemets au Festival Bar, où il a rencontré un grand ami pédophile de Deming, le dénommé Ger Van Roon, prof d'université, habitué à accueillir des jeunes fugueurs chez lui, des rapports de police le mentionnent, et qui l'a emmené en voyage en Pologne. C'est Van Roon qui a présenté la victime à Deming, qui attendait dehors dans sa grosse voiture de fonction. Van Roon connaissait beaucoup de monde dans le milieu pédophile et chez les VIP. Par exemple, il connaissait le proxénète d'enfants, donc Karel Maasdam, ou Lothar Glandorf, producteur de pédopornographie et enleveur d'enfants. notamment du jeune Manuel Schadwal, disparu en Allemagne et tué lors d'un snuff movie aux Pays-Bas après un passage dans les bordels. Lors de l'enquête Rolodex, qui n'a jamais abouti, cette victime a été interrogée par les flics. Mais comme d'habitude, il ne s'est rien passé. Car d'après ce témoignage, Van Roome était un, je cite, un pourvoyeur d'enfants pour les pédophiles de son réseau. Fin de citation. Comme par hasard, ce témoin a failli se faire tuer juste après l'enterrement de l'enquête Rolodex, si bien qu'il a dû se planquer. L'enquête a aussi fait émerger des enregistrements de conversations téléphoniques d'un groupe de pédos qui allait s'approvisionner en enfants dans les pays de l'Est. Sur l'un de ces enregistrements, on entend de Mink clairement commander des enfants pour le week-end. Pourtant, en 2002, il monte encore en grade pour arriver comme numéro 1 du ministère de la Justice. Prime à la casserole? On dirait bien. Contrairement aux affirmations du gouvernement, il y avait déjà eu plus de 40 alertes concernant les perversions de Mink. Ce qui est drôle, c'est que, comme on l'a déjà dit, le gouvernement américain a commencé à s'intéresser publiquement à l'affaire et demande à la justice hollandaise pourquoi aucune enquête n'est menée au sujet des graves accusations contre Mink. Du coup, une vaste enquête 100% à décharge a conclu qu'il n'y avait rien à signaler et finalement, les US pourraient bien avoir la même idée que les Turcs, c'est-à-dire faire chanter les Hollandais. Qu'est-ce qu'on rigole? Car à ne pas douter, les services américains doivent avoir des copies de tout le dossier, et cela depuis un bon moment. Et comme Deming continue d'être protégé par son ancienne hiérarchie, il a démissionné en octobre 2012 quand même, on dirait bien que l'heure est davantage aux tractations de couloir qu'à l'empoignade franche et honnête. Bref, la commission Helsinki a elle aussi mené sa petite enquête et a publié divers témoignages sur son site web. Je cite « Je représente des victimes turques qui ont été violées et abusées sexuellement quand elles avaient 11 et 14 ans. L'auteur était un fonctionnaire de haut rang dans le gouvernement hollandais, aujourd'hui secrétaire général du ministère de la Justice, M. Joris Deming. » Fin de citation, explique ainsi une avocate dont le témoignage est diffusé par la commission. Où l'on apprend entre autres qu'en 1995, Deming s'est fait pincer en Turquie en plein acte sexuel avec des mineurs alors qu'il était à une partouze où plusieurs mineurs ont été violés. Un gamin s'est échappé et a appelé les flics, qui ont arrêté puis relâché Deming. D'ailleurs, ça rappelle une affaire à Marrakech. Ensuite, les autorités turques ont utilisé ce dossier pour faire chanter les Pays-Bas et les pousser à harceler Baybazin. On connaît la suite. Donc l'affaire de Marrakech, celle qui avait été évoquée par le ministre Ferry à la télé, où il disait qu'un ministre avait été poissé dans une partouze avec des enfants à Marrakech et qu'évidemment, il avait, et voilà, ça s'était négocié avec l'ambassade, il avait été relâché. D'aucuns, bien informés, affirment que cette personne serait Philippe de Stoblésy. Il n'y a aucune raison de penser que les Turcs sont les seuls à faire chanter Deming et le gouvernement hollandais. Et il n'y a aucune raison de penser que Deming est un cas isolé. Il n'y a qu'à voir la mobilisation derrière lui, avec tout l'establishment qui le défend comme un seul homme, pour comprendre que Deming n'est que la brindille qui cache un éléphant en obésité sévère. En tout cas, les autorités hollandaises ne semblent toujours pas motivées à organiser un procès de Deming. Encore moins à faire le ménage, car il est certain que beaucoup sont compromis dans la haute société. Le point positif est que la mobilisation des citoyens ne fait qu'augmenter, se transformant en dégoût profond pour cette caste qui n'obéit pas aux lois qu'elle nous impose, qui ne respecte pas la morale dont elle nous rebat les oreilles et qui en plus viole nos enfants. De ce dégoût, ce sont des solutions qui devront émerger et il semble bien que les citoyens de nombreux pays dans le monde sont mûrs pour passer à cette phase-là du combat. Du coup, je me permets de vous signaler le témoignage de Roland Bernard, qui était quelqu'un de très haut placé dans le monde de la finance aux Pays-Bas, et qui, à un moment donné, dans son ascension, devait passer des sortes d'initiations, devait faire des choses. On lui disait clairement que c'était pour obtenir des promotions, qu'il allait falloir en passer par là. Et cette personne, à un moment donné, a eu un déclic et il a refusé d'aller violer des mineurs. Et il témoigne de ça. Et donc, voilà, des fois on parle des abus rituels, de loges francs-maçons, etc. Mais ça peut aussi très bien se passer de manière, entre guillemets, sans folklore. Tout simplement, voilà, en tournant, en mettant des caméras cachées dans des fêtes, entre guillemets, plein de cocaïne, où on fait rentrer des enfants. Et la personne, bon gré mal gré, voilà, aura sa promotion si elle accepte d'être tenue. Ce qui fait qu'on n'a plus que des gens qui sont tenus dans les postes de pouvoir. Voilà un petit peu la technique. Que ce soit au bénéfice de services secrets ou tout simplement au bénéfice de la structure multinationale qui s'assure de la fidélité de ces entre guillemets, caporaux, on va dire, de ces cadres, notamment dans la finance. Une actualisation de mars 2014. Fred De Brouwer, un journaliste hollandais qui avait été le premier à dénoncer le pédophile de Mink, vient de mourir dans un accident de voiture suspect en Thaïlande. Vous avez également des pièces jointes à télécharger, tout ce qu'on a cité, donc le mémorandum US, la commission Helsinki, sur l'article consacré sur le site, donc dans la partie réseau.